Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons, si Dieu veut, terminer le chapitre 20 de Saint Matthieu. Sur le polycopier qui couvre les chapitres 16 à 20 de Saint Matthieu, nous en sommes à la page 39. Lentement, nous arrivons à la fin de cet évangile selon Saint Matthieu. Vous voyez qu'il me faudra certainement plusieurs années, même à raison d'un cours par semaine, pour couvrir les quatre évangiles. On fait ce qu'on peut. Donc, nous en sommes à la page 39 sur les polycopiers, chapitre 20 de Saint Matthieu, verset 17. Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 apôtres, les 12 disciples, et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux gentils pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient, et il ressuscitera le troisième jour. » Nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ plusieurs fois va avertir ses apôtres de sa mort prochaine. Donc il avertit deux choses, il avertit d'une part de la mort et d'autre part de la résurrection. Les deux choses ne peuvent pas être séparées. Mais on voit très bien que les apôtres ont se rappelé la mort, l'annonce de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ils le crucifieront, mais qu'ils ont complètement oublié l'annonce de la résurrection. Et c'est pour cela que tous les apôtres vont, hélas, perdre la foi après la mort de notre Seigneur et même avant, puisque dès le jeudi saint, au soir, ils vont tous s'enfuir et abandonner notre Seigneur. Alors, il faut pour nous aussi ne pas oublier que ces deux choses sont jointes et unies, la crucifixion et la résurrection. On voit par exemple très bien dans le corps mystique du Christ, n'oublions pas que l'Église catholique est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, et si notre Seigneur Jésus-Christ a souffert dans son corps physique, il n'est pas étonnant qu'il souffre dans son corps mystique. Mais s'il a ressuscité dans son corps physique, il ressuscitera aussi dans son corps mystique. Donc, l'Église catholique est en pleine souffrance, on le voit très bien aujourd'hui, mais elle ressuscitera. Elle ressuscitera. Un jour, on verra le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier ça. On a un peu trop tendance à voir les choses avec un regard trop naturel. On voit les horreurs qui se passent actuellement à Rome, les blasphèmes successifs, les uns après les autres, toujours de plus en plus graves, de Bergoglio. Récemment, il a encore sorti des bêtises énormes au Maroc et ailleurs aussi. J'en ai déjà parlé en disant que les demandant aux catholiques, aux chrétiens du Maroc de ne pas faire d'apostolat, de ne pas chercher à convertir les musulmans. Il a aussi nié la peine de mort, en disant que la peine de mort était contre la dignité de la personne humaine. Enfin, des choses qui s'opposent à toute la tradition catholique. Toute la tradition catholique. L'Église a toujours défendu la peine de mort donnée par l'autorité légitime en cas de, pour des péchés très graves. Alors, il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, donc son Église aussi ressuscitera. L'Église est toujours divine. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu, même quand il est crucifié. Même quand il souffre le martyr, crucifié, en train de mourir sur la croix, il est Dieu. Et l'Église est divine. Même lorsque Bergoglio l'a trahi, même lorsque tous les évêques pratiquement du monde entier trahissent leur Église, trahissent notre Seigneur Jésus-Christ plus exactement, eh bien, l'Église catholique est toujours divine. Elle ressuscitera. Quand est-ce qu'elle ressuscitera? On ne sait pas. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après sa mort. Mais l'Église catholique ressuscitera peut-être plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après sa mort apparente. Et n'oublions pas que l'Église catholique restant divine, elle ne peut pas être détruite parce qu'elle est une sainte catholique et apostolique, qu'elle sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas détruire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, donc on ne peut pas détruire la divinité du corps mystique du Christ. Le bon Dieu a promis que les forces du mal ne prévaudront point contre son Église. Il n'a pas promis que l'Église ne traverserait pas des épreuves et des crises terribles. On le voit très bien avec les apôtres. Le bon Dieu a promis qu'il serait avec les apôtres, mais il n'a pas empêché la prévarication des apôtres. Les apôtres ont tous trahi au soir du Jeudi Saint. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ces versets, donc 17 à 19 du chapitre 20 de Saint Matthieu. Remarquez, disent-ils, que c'est volontairement que le Christ va à la mort. Et lorsque vous le verrez suspendu à la croix, gardez-vous de croire qu'il n'est qu'un homme. Car s'il est dans la nature de l'homme de mourir, il n'est point dans sa nature de vouloir marcher de lui-même à la mort. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est homme. Étant homme, il avait une peur naturelle de la mort. Et c'est pour cela qu'au soir de sa passion, on le verra très bien au jardin des Oliviers, il le dit expressément, « Mon âme est triste à en mourir ». Et il dit à son père, s'il est possible que ce calice de sa passion, passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais que votre volonté soit faite. Et une fois crucifié, il va aller jusqu'à dire, mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est incroyable, dans son humanité, se plaint en quelque sorte d'avoir été abandonné par son propre père. La première personne de la Sainte Trinité qui abandonne la deuxième personne de la Sainte Trinité, au moins apparemment. Bien, ceci nous aide à comprendre la gravité du péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, étant vraiment homme, va vraiment souffrir pendant sa passion, il va vraiment avoir une angoisse terrible. Notre Seigneur Jésus-Christ, au soir du Jeudi Saint, va entrer en désolation terrible. N'oublions pas que le premier signe de la désolation, d'après saint Ignace de Loyola, c'est la tristesse. Et on le voit très bien dans le texte de l'Évangile, « Mon âme est triste à en mourir ». Par sa passion, donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ce que nous devons souffrir pour la vérité, et par sa résurrection, ce que nous devons espérer dans l'éternité. Le troisième jour, il ressuscitera. Donc il ne faut jamais, jamais nous décourager, même quand on voit actuellement l'hécatombe générale dans le clergé, surtout. Si la France en est là où on en est actuellement, eh bien c'est bien à cause de l'apostasie du clergé, malheureusement. Et le manque de sainteté du clergé est dû pour tout le monde, y compris pour moi d'ailleurs. Donc certes, les prémices de cette mort de la France datent de plusieurs années en arrière. Personnellement, je vous l'ai déjà souvent dit, je pense que la France est pratiquement morte en tant que France catholique avec le ralliement de Léon XIII en 1892. Lorsque Léon XIII, par erreur politique, c'est pas une erreur sur la foi et les mœurs, attention, mais c'est une erreur très grave en matière politique, a demandé aux catholiques d'arrêter de lutter contre la République française, et de l'accepter comme tel pour essayer de travailler à l'intérieur de l'intérieur de la France pour sauver les meubles en quelque sorte, eh bien il est évident qu'à ce moment-là, il a détruit complètement la France catholique. Il est mort en disant qu'il avait de bonnes intentions. C'est vrai qu'il avait de bonnes intentions, je ne veux pas nier les bonnes intentions du pape Léon XIII, mais les catastrophes qu'il a provoquées, on en voit encore les conséquences aujourd'hui. Donc, si vous voulez, par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par sa résurrection, on verra sa divinité. Il est homme et Dieu ensemble. Et donc, la difficulté, si vous voulez, je pense que la tentation pour chacun d'entre nous, c'est ou de s'arrêter à l'humanité, ou de s'arrêter qu'à la divinité. Ce qui s'arrête à l'humanité, c'est ceux qui ne voient que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et ça entraîne le désespoir le plus complet. C'est les apôtres, les disciples d'Emmaüs, Cléophas et Saint-Luc, qui sont complètement découragés, parce que, justement, ils n'ont vu que l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit très bien dans le texte de Saint-Luc, au chapitre 24. Voilà le texte qui nous aide à réfléchir. Ces deux disciples donc allaient vers un bourg nommé Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Il advint, tandis qu'ils parlaient et conféraient ensemble, que Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Pourquoi êtes-vous triste ?» Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Êtes-vous le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils leur répondirent, touchant Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les princes et prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié? Nous espérions que ce serait lui qui racheterait Israël. Et maintenant, après tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour que ces choses se sont passées. » Vous voyez, on voit très bien que les disciples d'Emmaüs, et tous les apôtres d'ailleurs, à ce moment-là, ne voient que l'humanité. C'est le premier danger. On oublie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on tombe dans la désolation la plus complète. Parce qu'évidemment, si vous regardez que l'humanité de l'Église, eh bien, on est complètement découragé en voyant ce qui se passe actuellement. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement homme, il est aussi Dieu. Alors le deuxième danger consiste à ne voir que la divinité. Et oublier l'humanité. Voir que la divinité, c'est qu'on considère que l'Église est purement divine et donc qu'elle est incapable, sur le plan humain, de faire des erreurs. Or, l'Église catholique, humainement parlant, par ses ministres, peut faire des erreurs. Et on a toujours vu dans l'histoire de l'Église des ministres indignes, malheureusement, surtout des évêques, des prêtres indignes qui ont mal gardé leur vœu de pauvreté, leur vœu de chasteté, leur vœu d'obéissance. Alors si on voit que la divinité de l'Église, on divinise l'Église, on divinise les hommes d'Église, ce qui est extrêmement dangereux, et on oublie que l'Église est aussi humaine. Donc il faut garder les deux choses. Notre Seigneur Jésus-Christ souffre parce qu'il est homme, mais il va ressusciter parce qu'il est Dieu. De la même façon, l'Église catholique est purement humaine et divine à la fois. Certes, nous savons, à cause de l'enseignement de l'Église, du magistère de l'Église, que l'Église étant divine, elle ne peut pas errer en matière de foi et de mœurs. N'oublions pas que dans l'enseignement des papes, au cours des 20 siècles, jusqu'à la mort du pape XII, on ne peut pas trouver d'erreur dogmatique dans l'enseignement des papes sur la foi et les mœurs. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ est là pour protéger son Église. Les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Donc, quand la souffrance, disent les pères, est anticipée, page 39 sur le polycopier, elle est trouvée plus légère que si elle tombe sur nous soudainement. Dans sa passion, le Christ nous montre comment nous devons souffrir pour la vérité. Et dans sa résurrection, nous espérons la Sainte Trinité quand il dit, le troisième jour, il ressuscitera de nouveau. Si les apôtres s'étaient rappelés cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, il ressuscitera le troisième jour, en parlant du Fils de l'homme, eh bien, ils auraient attendu cette résurrection, mais la seule personne qui s'est rappelée cette phrase, c'est la très sainte Vierge Marie. Donc, par une seule mort, celle du Sauveur selon son corps, il nous sauva d'une double mort, celle de l'âme et celle du corps. Et par une seule résurrection, il gagna pour nous une double résurrection, pour le corps et pour l'âme. C'est la nature humaine que notre Seigneur Jésus-Christ va sauver. Donc le corps et l'âme, c'est pour cela que le corps et l'âme vont participer à la gloire de Dieu. Pour un élu, quelqu'un qui meurt en état de grâce, il n'y a pas que son âme qui va aller au ciel. Un jour, le corps aussi rejoindra au ciel l'âme pour jouir de la béatitude. Et nous aurons au ciel un corps, mais un corps glorieux, avec les privilèges des corps glorieux. Moralement parlant, le Christ répète souvent la mention de sa passion à venir pour montrer à ses apôtres son amour pour eux. pour qu'ils puissent l'aimer en retour et payer amour pour amour, 100% mort pour mort. Car la croix du Christ est le foyer, le feu de l'amour. Et les apôtres vont l'apprendre par la force des choses. Ils vont tous mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, sauf Saint Jean, mais Saint Jean n'est pas mort martyr, mais je vous l'ai déjà dit souvent, il devait être martyr puisqu'il a été précipité dans l'huile bouillante par les Juifs à la porte latine, à Rome, et que Dieu n'a pas voulu que Saint Jean meure martyr, mais il a permis que Saint Jean, il a voulu que Saint Jean meure de sa bonne mort, de sa belle mort, sa mort naturelle à la fin du 1er siècle. N'oublions pas qu'après la mort de Saint Jean, entre 99 et 101, les historiens ne sont pas d'accord, entre 99 et 101, c'est la fin de la mort du dernier des apôtres, et donc c'est la fin du dépôt de la foi. Le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Cette phrase est belle des pères, la croix du Christ est le foyer, le feu de l'amour. Il faut vraiment que dans tous nos foyers chrétiens, nous voyons la croix. Je vous l'ai déjà dit souvent, je pense qu'il est important d'avoir ces trois signes dans tous les foyers chrétiens, à savoir la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rappelle notre rédemption, qui nous rappelle la rédemption et en même temps l'incarnation. Sur la croix, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est homme, et en tant qu'homme, il est crucifié. Et ça nous rappelle aussi qu'à partir de la croix, il va ressusciter d'entre les morts. Donc le crucifix est vraiment mis, placé à la place d'honneur dans la maison, nous rappelle constamment, par cette image du crucifié, nous rappelle que nous sommes hantés sur la croix, littéralement. Et donc, il faut avoir cette croix dans toutes nos familles. Moi, j'avoue que j'aime bien avoir dans les maisons une croix dans chaque chambre, dans chaque chambre des enfants, la chambre des parents, qui est cette croix, que la croix soit aussi dans la salle à manger, dans le salon. Chez moi, un petit appartement que j'ai ici, j'ai mis une croix partout. J'ai une croix dans la... Une petite croix dans la salle de bain, une croix dans les toilettes même. J'ai même mis mais dans la salle de bain, j'ai une croix pour me rappeler justement constamment que notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il voit tout ce que je fais, il sait tout ce que je pense, il écoute tout ce que je dis, et donc je dois agir, penser et parler comme un chrétien. La deuxième image que je voudrais voir dans tous les foyers, c'est l'image de la Vierge. Une belle image de Notre-Dame aussi pour nous rappeler que Notre-Dame est médiatrice de toute grâce, qu'elle est co-rédemptrice du jour humain. C'est par elle qu'on monte au ciel aussi, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que tout arrive par sa mère. Et je vous l'ai souvent dit, la troisième image que j'aimerais voir dans toutes nos familles chrétiennes, c'est une image de la papauté, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, on nous accuse d'être en dehors de l'Église, avoir une image d'un vrai pape. Ayez dans une place d'honneur de la maison, peut-être à l'hôtel, petit hôtel devant lequel toute la famille fait sa prière du soir, eh bien, ayez une belle image de Saint Pie V, une belle image de Pie XII, une belle image de Saint Pie X. Moi, j'ai un très beau buste qu'on m'a donné, un cadeau, du pape Pie IX que j'aime beaucoup. Les papes Pie IX, donc ayez une image d'un vrai pape, parce que vous avez tout choix, depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII. Et donc, quand quelqu'un rentre chez vous, même un païen qui rentre chez vous, va vous faire signer un papier, je ne sais pas quoi, le facteur, les pompiers qui rentrent chez vous, mais il voit la croix, il voit la Sainte Vierge, il voit la papauté. Ah, là, je suis dans une famille catholique. Et quand les gens vous font des remarques en vous disant que vous n'êtes pas catholique parce que vous n'allez pas à la messe locale, à la messe de l'église de Vatican II, vous pourrez montrer la croix, vous pourrez montrer l'image de la Sainte Vierge, vous pourrez montrer l'image du pape. Et on dit voilà, je suis catholique, voilà la preuve. Et pas simplement avoir ces images, mais donner à vos enfants l'amour de la croix, c'est-à-dire l'amour de la messe, l'amour de la Sainte Vierge Marie, donc le rosaire, le chapelet au moins prié tous les jours, et l'amour de la papauté. Et j'ai trouvé là un très beau texte de Saint Bernard que j'ai mis page 39. Voilà ce que disait Saint Bernard, le dernier père de l'Église. Vous devez à Jésus-Christ toute votre vie, parce qu'il a donné sa vie pour vous, et a enduré des tourments cruels pour que vous n'ayez pas à endurer les tourments éternels. Et quand même, je lui aurais donné tout ce que je suis et tout ce que je peux, Ce ne serait toujours qu'une goutte d'eau comparée à une rivière ou un grain de sable comparé à un monceau de sable. Donc il faut donner tout ce qu'on a au bon Dieu. Rappelez-vous cette belle histoire que j'ai souvent expliquée déjà de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît à Bethléem, à Saint-Jérôme, qui méditait au lieu de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui demande un cadeau pour Noël. Et après avoir tout donné, notre Seigneur Jésus-Christ répond à Saint-Jérôme qui dit « Mais j'ai déjà tout donné, je vous ai déjà tout donné. » Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette phrase extraordinaire, « Donnez-moi vos péchés, que je les repardonne de nouveau. » C'est sans doute la dernière chose qu'on penserait offrir à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc il souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on lui offre ses péchés pour qu'il puisse les repardonner. Si je dois au Christ déjà tout pour ma création, que puis-je maintenant ajouter pour ma recréation et une telle recréation? Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement mon Créateur, il est aussi mon Rédempteur. C'est pour cela, dit le pape Pie XI dans son encyclique sur le Christ roi, il le dit expressément, notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature parce qu'il est Créateur, mais il est roi aussi par droit de conquête parce qu'il est Rédempteur. Droit de conquête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix de notre rédemption. Et donc, il est doublement propriétaire de nos âmes. Il est propriétaire de mon âme par création, parce que c'est lui qui l'a créée. Il est créateur de mon âme par rédemption, parce que c'est lui qui l'a rachetée. C'est la belle encyclique Quas Primas de Saint de Pion, de... Ça, du pape Pion sur le Christ roi qui explique très bien cela. Car il est plus facile de me créer que de me recréer. Pourquoi il est plus facile pour notre Seigneur Jésus-Christ de créer une âme que de racheter une âme qui s'est vautrée dans le péché? C'est saint Alphonse de Ligurie, je crois, qui explique bien que c'est un plus grand miracle que de convertir un péché endurci que d'avoir créé le ciel et la terre. C'est un plus grand miracle pour notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir sauvé l'âme de Saint Dismas, le bon larron, juste au moment de sa mort, sur la croix, que d'avoir créé le ciel et la terre. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit au bon larron, je te pardonne, tout ce que tu as fait, c'est pardonné. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Eh bien, fais un acte qui est plus grand que la création du ciel et de la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc bien plus grand encore quand il exerce sa miséricorde, que quand il exerce sa justice. Bien sûr, il faut comprendre le mot miséricorde. Miséricorde, c'est pas faiblesse. De même que justice ne correspond pas à la cruauté. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement juste et parfaitement miséricordieux, mais il est plus grand quand il exerce sa miséricorde que quand il exerce sa justice. Parce qu'il faut encore, je dirais, plus de force divine pour pardonner aux pécheurs repentants que pour envoyer en enfer un pécheur qui refuse de se convertir. Donc notre Seigneur Jésus-Christ exerce encore plus sa divinité lorsqu'il pardonne aux pécheurs repentants. Attention, quand il pardonne aux pécheurs repentants, notre Seigneur Jésus-Christ ne pardonne pas à un pécheur qui ne se repent pas. Il faudrait peut-être expliquer ces choses à Bergoglio, il aurait bien besoin de comprendre ça. Vous voyez, comme il y a beaucoup de points à méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ ici, c'est l'annonce de la passion, donc Saint Matthieu chapitre 20, versets 18 et 19, et il faut méditer là-dessus. On m'a accusé plusieurs fois de trop parler de la miséricorde. Je pense qu'on pourrait accuser beaucoup de prêtres de ne pas parler assez de la miséricorde. Mais attention, encore une fois, la miséricorde n'est pas de la faiblesse. La miséricorde ne consiste pas à pardonner n'importe quoi, n'importe qui, alors qu'il n'a aucun regret. C'est pour cela que l'Église a toujours enseigné que pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse exercer sa miséricorde, eh bien, il faut au minimum une contrition imparfaite. C'est le minimum. C'est-à-dire le regret de ses péchés par peur de l'enfer. Mais l'Église enseigne aussi que si quelqu'un regrette ses péchés par amour du bon Dieu, tout Les fautes, même mortelles, sont pardonnées, même sans confession, avec un acte de contrition parfaite. Et bien plus que ça, non seulement un acte de contrition parfaite efface les péchés mortels, mais efface même les peines temporelles accrochées à ces péchés mortels. C'est-à-dire la peine du purgatoire. C'est pour ça qu'un quelqu'un qui meurt martyr, même s'il était en tas de péchés mortels avant son martyr, du moment qu'il accepte son martyr et qu'il meurt dans un acte d'amour du bon Dieu, c'est un acte de charité parfaite, il va droit au ciel. Il passe directement de la bouche du lion dans lequel il vient d'être croqué et jusqu'au ciel. Celui, disent les pères, qui m'a créé par une seule parole, en a prononcé plusieurs pour me recréer, faisant pour moi des actes merveilleux, endurant des afflictions, et pas seulement des afflictions, mais aussi des indignités. Dans sa première œuvre, il m'a donné mon être, par sa création. Dans sa seconde, la rédemption, il s'est donné à moi en se donnant, et il m'a restauré à moi-même. Pour ma création, ma recréation, que rendrai-je à Dieu? Même si je pouvais me repayer 2000 fois, que serait cela pour Dieu? Votre croix au Christ est la source de toute bénédiction, par laquelle est donnée aux croyants la force venant de la faiblesse, la gloire de l'opprobre, la vie de la mort. Ces textes des pères sont absolument magnifiques. J'ai pas noté forcément à chaque fois les références, mais ça c'est un peu le style de Saint Bernard. Saint Bernard a écrit des textes magnifiques sur la miséricorde du bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, me sauve doublement. Il me sauve par en me créant avec une âme qu'il va baptiser, donc sur laquelle qu'il va marquer avec son caractère, le caractère par lequel je suis enfant de Dieu, et il va me re-sauver d'une certaine façon en mourant pour moi sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas de me créer après de me balancer dans le monde. Non, notre Seigneur Jésus-Christ me crée une fois créé, il me donne les grâces par le sacrement de pénitence, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, mes grâces pour conserver les fruits de cette création, et le fait que j'ai une âme, que j'ai une volonté, que j'ai un cœur, et bien le bon Dieu va me donner pendant toute ma vie sur la terre les grâces dont j'ai besoin, et il me donnera la grâce de me sauver, d'être sauvé par la vertu de charité, par la grâce de sa mort pour moi sur la croix, à condition bien sûr que j'accepte d'ouvrir la porte. Donc le bon Dieu ne va pas rentrer comme un voleur, si je ne veux pas ouvrir la porte de mon âme, et bien c'est évident que si je ne suis pas uni à lui par la vertu de charité, notre Seigneur Jésus-Christ a beau être mort pour moi sur la croix, si je refuse, il ne rentrera pas dans mon âme. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ respecte le libre arbitre de chacun d'entre nous. C'est un grand mystère, mais c'est comme ça. Votre croix au Christ est la source de toute bénédiction, par laquelle est donnée aux croyants la force venant de la faiblesse, la gloire de l'opprobre, la vie de la mort. Il faut méditer sur ces passages-là. Avançons, versets 20 à 23 de Saint Matthieu, chapitre 20. Alors, la mère des fils de Zébédée, Saint Jacques et Saint Jean, s'approcha de lui avec ses deux fils. Se prosternant en lui demandant quelque chose, et il lui dit, « Que voulez-vous ?»« Ordonnez, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis l'un à votre droite et l'autre à votre gauche dans votre royaume. » Mais Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ?» Et lui dire, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Oui, vous boirez mon calice. Quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous le donner. Ce sera pour ceux auxquels mon père l'a préparé. » Ces versets doivent être bien compris. Beaucoup d'hérétiques ont utilisé ces versets pour dire, voyez, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, puisqu'il ne sait pas qu'il sera assis à droite et à la gauche de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, donc il n'est pas Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ ici parle comme homme. Il ne parle pas comme Dieu, mais il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et donc en tant que Dieu, il sait très bien qui sera assis à sa droite et qui sera assis à sa gauche au ciel. Donc cette mère des enfants de Zébédée, en bas de la page 39, est Salomé, dont un autre évangéliste nous fait connaître le nom, femme vraiment pacifique, qui enfantait les enfants de la paix. Nous pouvons juger ici du mérite et de la gloire de cette femme, qui non contente de voir ses enfants quitter leur père, abandonne elle-même son mari pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Car son mari pouvait vivre sans elle, mais pour elle, elle ne pouvait obtenir le salut sans Jésus-Christ. On peut admettre d'ailleurs que Zébédée était mort dans l'espace de temps qui s'écoula de la vocation des apôtres à la passion du Sauveur. Donc, les pères disent donc que la mère des fils de Zébédée, donc la mère de Saint Jean et Saint Jacques, faisait partie des saintes femmes qui ont suivi notre Seigneur. Notre Seigneur avait toute une troupe avec lui. Il avait les apôtres, bien sûr. Il avait aussi sa mère et les saintes femmes, mais qui s'occupaient des tâches, certainement des tâches de nourrir. De nourrir ses apôtres qui avaient bien besoin de manger parce qu'ils faisaient beaucoup de travail physique. Ils marchaient pour prêcher. Et ben, les saintes femmes étaient là. Avec les dons qui étaient donnés à notre Seigneur Jésus-Christ, ben, elles achetaient de la nourriture et elles faisaient la cuisine pour nourrir les apôtres et nourrir notre Seigneur Jésus-Christ. Et nourrir aussi les disciples qui parfois étaient là. Les apôtres étaient tout le temps avec notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, pas tous les disciples, mais il y en avait toujours avec eux. C'est donc alors que cette femme, page 40 dans le polycopier, cette femme d'un sexe faible et accablée par l'âge marchait à la suite de Jésus-Christ, car la foi ne vieillit point et la piété ne connaît point la fatigue. Dieu agit en toute puissance à sa droite et à sa gauche en ne souffrant aucun mal en sa présence. Donc il faut que je suive notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand tu as décidé si je serai à la droite ou à la gauche de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, plaçons cela dans les bras de la miséricorde du bon Dieu. C'est évident que tous les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui meurent en état de grâce, tous les élus du ciel, d'une certaine façon, seront à la droite ou à la gauche de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison du Père, eh bien, il y aura des différents degrés de gloire. Toutes les âmes ne seront pas égales, n'ont jamais été égales, ne seront pas égales même au paradis. Bien que tout le monde sera au paradis, il y a quand même des places au paradis dans lesquelles on sera plus proche du bon Dieu que d'autres. Comme si vous voulez imaginer une pièce un peu froide et puis il y a un grand feu au milieu. Bon, ceux qui sont tout proches du feu bien, ressentent plus la chaleur que ceux qui sont plus éloignés du feu. Alors, ici j'ai mis cette interprétation des pères justement pour ces deux mots droite et gauche. Je rappelle le texte. Ordonnez que mes deux fils que voici soient assis l'un à votre droite et l'autre à votre gauche. Alors, que représentent ces deux mots? Alors là, les pères ne sont pas d'accord entre eux. Je vous donne certaines explications des pères. Parmi ceux qui s'approchent de Jésus-Christ, ceux qui sont les plus élevés sont à sa droite et ceux qui sont au-dessous sont à sa gauche. Par la droite du Christ, peut-être, peut-on comprendre toute créature invisible et par la gauche, toute créature visible et corporelle. Dans le nombre de ceux qui s'approchent du Christ, les uns prennent la droite, c'est-à-dire les choses intelligibles, les autres la gauche, c'est-à-dire les choses sensibles. Je vous ai appelé à ma droite, de la gauche où vous étiez, et vous, de votre propre choix, vous hâtez de repasser à la gauche. Aussi est-ce pour cela peut-être que cette demande se négociait par le moyen d'une femme. Pourquoi? Parce que le démon recourut à ses armes habituelles à la femme pour séparer ses deux frères de leur maître par la suggestion de leur mère, comme il avait dépouillé Adam par le moyen de sa femme. C'est une allusion évidemment à la prévarication d'Ève qui a désobéi en mangeant le fruit défendu, premier crime, et deuxième crime en faisant manger la deuxième moitié de ce fruit défendu, la pomme de discorde, en faisant manger ce fruit à son mari, Adam. Mais la ruine ne pouvait plus arriver jusqu'au sein par une femme, depuis que le salut de tous les hommes était sorti par les mains d'une femme, à savoir la très sainte Vierge Marie. C'est par une femme que le malheur et la mort est arrivé sur le monde, mais c'est par une femme aussi, avec un grand F cette fois-ci, que le salut est arrivé sur le monde. Le salut de tous les hommes sortant par les mains de la très sainte Vierge Marie. On peut se demander avec les pères, à quel sens ces deux enfants de Zébédée, Saint Jacques et Saint Jean, ont bu le calice de martyr, puisque seul Saint Jacques est mort martyr, décapité par Hérode, et que Saint Jean mourut de mort naturelle. Mais puisque, disent les pères, nous lisons dans l'histoire ecclésiastique que Jean fut plongé dans une chaudière d'huile bouillante, qu'il fut exilé dans l'île de Patmos, nous voyons qu'il eut vraiment l'esprit du martyr et qu'il but le calice du confesseur de la foi, calice que burent aussi les trois enfants dans la fournaise, bien que leur persécuteur n'ait pas répandu leur sang. Vous avez de nombreux saints qui sont considérés comme martyrs, bien qu'ils ne soient pas morts pendant les souffrances directes du martyr. Mais ils sont morts, par exemple, après avoir souffert des souffrances incroyables. Il y en a qui ont des saints martyrs qui ont beaucoup souffert, de la part des bourreaux, mais ils ont survécu. Eh bien, ils sont morts parfois plusieurs années après, et ils sont considérés comme martyrs à cause de leur souffrance, parce qu'ils ont imité notre Seigneur Jésus-Christ en souffrant beaucoup physiquement pour lui. Alors, on voit très bien dans ce texte et dans les versets qui suivent que les apôtres ne sont pas encore des saints. Pourquoi? C'est le verset 24. Les 10 apôtres, ayant entendu la mère de Zébédée qui demandait donc la grâce que ses deux fils, deux des apôtres, Saint-Pierre, donc Saint-Jacques et Saint-Jean, soient à la droite et à la gauche de notre Seigneur Jésus-Christ, les 10 autres, en entendant cela, s'indignèrent contre les deux frères. Donc, et les pères font remarquer que personne ne soit troublé par le fait que les apôtres étaient encore si imparfaits, quand le mystère de la croix n'avait pas encore été consommé et la grâce de l'Esprit n'avait pas été infusée dans leur cœur. Pour juger de leur vertu, il faut voir ce qu'ils sont devenus après qu'ils aient reçu l'Esprit, et vous comprendrez alors leur héroïsme. Leur imperfection est rendue connue pour que nous puissions voir clairement ce qu'ils sont devenus par le travail de la grâce. Mais c'est ça qui est magnifique. D'ailleurs, on voit très bien que les écrivains sacrés qui ont écrit les évangiles n'ont pas caché les faiblesses des apôtres. Saint Pierre a tenu, par exemple, que sa prévarication, le fait qu'il ait 3 fois de suite renié son notre Seigneur Jésus-Christ, soit en toute lettre dans l'évangile. Il aurait pu dire, ben, puisque je suis pape, par respect pour la papauté, ben, je voudrais que ces choses ne soient pas mises dans l'évangile. Non, il a tenu à ce que son histoire, son triple reniement, dans la cour de la forteresse Antonia, que son triple ralliement soit écrit en toute lettre dans l'évangile. Mais en même temps, l'évangile, puis ensuite les actes des apôtres, expliquent bien la grandeur de Saint-Pierre. Même s'il n'est pas tout compris. On voit aussi plus tard, alors que Saint-Pierre, épouvanté par les persécutions terribles contre les chrétiens, s'enfuit de Rome, complètement découragé, pour éviter le martyr. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, et Saint-Pierre le reconnaît, lui dit « Seigneur, où allez-vous ? » Et notre Seigneur Jésus-Christ lui répond « Je vais à Rome pour être recrucifié de nouveau. » C'est un reproche terrible à Saint-Pierre. Saint-Pierre a compris, fit demi-tour, et suivit notre Seigneur Jésus-Christ à Rome, il va mourir martyr, il va être crucifié la tête en bas. Au lieu actuel de la basilique Saint-Pierre, en l'an 67. Donc les imperfections des apôtres sont passées dans l'évangile pour que nous puissions voir clairement qu'ils sont ceux qui sont devenus par le travail de la grâce. Vous savez, il faut se dire que si les apôtres ont prévariqué comme cela, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On serait sans doute enfui encore plus vite que les apôtres ne se sont enfuis au soir du jeudi saint, depuis le jardin des Oliviers. Nous, on se serait sauvés encore plus vite. On n'est pas meilleur que les apôtres, au contraire, on est pire qu'eux. Petite remarque des pères de l'Église, je ne suis qu'un administrateur et non pas un propriétaire, et Dieu me demandera un exact acompte de l'accomplissement de ma fonction. Saint Jacques et Saint Jean furent appelés à suivre le Christ dans sa pauvreté, et la croix est non à solliciter des honneurs. Et donc, il leur demande de ne pas se préoccuper pour le moment d'être assis à la droite ou à la gauche de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui décidera ça au temps où ça sera nécessaire. Donc, je dois me sanctifier d'abord par la pratique de mon devoir d'État. Sanctification par le devoir d'État. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça et pensent qu'il faut d'abord commencer par faire des tas de choses extraordinaires pour se sauver. Mais non, c'est pas du tout ce que nous demande le bon Dieu. Le bon Dieu ne demande pas ça. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Bien, il nous demande à ce que nous participions au mystère de sa rédemption. Mais on participe au mystère de la rédemption par l'accomplissement de notre devoir d'État. Qu'est-ce que c'est que le devoir d'État? C'est faire ce qu'on a à faire tous les jours, jour après jour, pour la plus grande gloire de Dieu, avec un grand sourire. Une maman qui s'attelle à repasser une pile de linge qui semble augmenter sans cesse,
Une maman qui s'occupe de, ben, qui se lève trois fois dans la nuit pour nourrir son bébé et son nourrisson, eh bien, remplit son devoir d'État. Et je dirais, elle remplit son devoir d'État au même niveau, littéralement, qu'un martyr qui va donner sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une autre forme de martyr. Il faut que les mamans arrivent à comprendre que le jour où elles deviennent mères, eh bien, elles ne peuvent plus penser à elles. Hein. Elles pensent d'abord à l'enfant. C'est pour ça qu'elles sont mariées. Elles sont mariées pour avoir des enfants. Elles sont mariées pour la procréation, pour l'éducation des enfants. Et donc une maman, évidemment, à partir du moment où elle est mère, eh bien, elle met sa volonté propre dans la poche, le mouchoir par-dessus, et puis elle se sanctifie, je dirais, avec la croissance de l'enfant. Avançons, on essaie de terminer ce chapitre 20 de Saint-Luc, en bas de la page 40, Saint-Matthieu, chapitre 20, versets 24 à 28. Les 10, les autres apôtres, ayant entendu cela, s'indignèrent contre les deux frères. Mais Jésus les appela à lui et leur dit, « Vous savez que le prince des nations les domine, que les princes des nations les dominent, et que les grands exercent sa puissance sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais que celui qui voudra devenir le plus grand parmi vous soit votre serviteur, et que celui qui voudra être le premier parmi vous soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie contre la rançon d'un grand nombre. » Donc la première étape qui mène à la sainteté, c'est l'humilité. Rappelez-vous ces vertus passives, essentielles. L'humilité, l'obéissance qui mène à la charité. L'humilité, l'obéissance qui mène à la charité, les trois vertus qu'on appelle des vertus passives, mais qui sont tellement importantes, qui s'opposent évidemment à l'esprit du monde moderne, liberté, égalité, fraternité. Ben non, au lieu de liberté, ben il faut parler d'obéissance. Au lieu d'égalité, il faut parler de justice. Et au lieu de fraternité, ben il faut parler de charité. On voit que tout est basé sur la vertu d'humilité. Donc encore une fois, malheur à quelqu'un qui n'a jamais obéi, qui n'a jamais appris à obéir comme enfant, parce que ça veut dire qu'il n'a pas l'humilité. Et si l'humilité n'est pas là, il n'y a pas de salut possible. Donc il faut méditer là-dessus. La demande des deux disciples avait été toute charnelle, et la tristesse des 10 autres fut de même nature. Car s'il est blâmable de vouloir s'élever au-dessus des autres, il est, on ne peut plus glorieux d'accepter que d'autres soient élevés au-dessus de nous. Quand nous sommes tentés par ces tentations d'orgueil, il faut justement demander cette grâce de l'humilité. Il est bon, lorsque nous sommes tentés par l'orgueil, de réciter, de méditer surtout les magnifiques litanies de l'humilité. Le cardinal Méridelval, qui était secrétaire d'État du Grand Saint-Pilis, avait coutume de réciter chaque jour après la célébration de la Sainte Messe. Je vous donne ce texte qui est splendide. « Ô Jésus, doux et humble de cœur, exaucez-moi. Du désir d'être estimé, délivrez-moi Jésus. Du désir d'être aimé, délivrez-moi Jésus. Du désir d'être exalté, délivrez-moi Jésus. Du désir d'être honoré, du désir d'être loué, du désir d'être préféré aux autres, délivrez-moi Jésus. Du désir d'être consulté, du désir d'être approuvé, délivrez-moi Jésus. De la crainte d'être humilié, de la crainte d'être méprisé, de la crainte d'être rebuté, délivrez-moi Jésus. De la crainte d'être calomnié, de la crainte d'être oublié, de la crainte d'être tourné en ridicule, délivrez-moi Jésus. De la crainte d'être injurié, de la crainte d'être soupçonné, délivrez-moi Jésus. Que les autres soient plus aimés que moi, Jésus, faites-moi la grâce de les désirer. Que les autres soient plus estimés que moi. Que les autres puissent grandir dans l'opinion du monde et moi diminuer. Jésus, faites-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent être choisis et moi mis de côté. Que les autres puissent être loués et moi négligés. Jésus, faites-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent même être préférés en tout. Jésus, faites-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent devenir plus saints que moi, pourvu que je devienne saint autant que je le puis. Jésus, faites-moi la grâce de le désirer. Il faut réciter souvent ces magnifiques litanies de cardinal Méridelval, un très très grand prince de l'Église, secrétaire d'État de Saint-Pédis, qui n'était pas rien. Alors, avançons dans ce commentaire des pères, donc en bas de la page 40. Une remarque intéressante des pères. Disons que les premières dignités vont au-devant de ceux qui les fuient et fuient ceux qui les recherchent. Rappelez-vous Saint Pilis, complètement paniqué lorsqu'il s'est rendu compte que les voix des cardinaux se massaient sur son nom et qu'il allait être élu pape. Il est tombé en sanglots, littéralement, prostré à la chapelle Sixtine au moment de l'élection, quand il s'est rendu compte qu'il allait être élu pape. Il a supplié les cardinaux de penser à quelqu'un d'autre. Et lorsque finalement il a obtenu le nombre requis de voix, il est allé se réfugier devant le Saint-Sacrement en pleurs. Il a fallu que le doyen du sacré collège vienne et littéralement l'oblige à accepter en lui disant: mais c'est la manifestation de la volonté divine, tous les cardinaux veulent que ce soit vous qui deveniez leur chef. Et Saint Pilis luttait contre cette nomination en disant: mais je ne suis pas digne, je suis trop faible. Finalement, le doyen a dit à Saint Pilis: acceptez comme une croix, très saint père. Et finalement, Saint Pilis a compris que c'était la volonté du bon Dieu. Et oui, ces prêtres qui étaient nommés évêques dans l'histoire de l'Église, on en voit souvent qui s'enfuient littéralement, qui vont se cacher parce qu'ils ne voulaient pas devenir évêques. Il fallait littéralement que, dans certains cas, le pape aille les faire chercher par la peau du cou et les oblige à accepter leur épiscopat sous peine d'excommunication, littéralement. Au nom de la Sainte Obéissance, je vous oblige d'accepter cet épiscopat qui vous est transmis. Vous allez devenir un successeur des apôtres. Ce qu'il faut désirer, disent les pères, ce n'est point un rang plus élevé, mais une vie plus vertueuse. Il n'est donc ni juste ni utile de désirer la puissance et les honneurs dans l'Église, car quel est l'homme, tant soit peu sage, qui voudrait se soumettre de lui-même à une si grande servitude et au danger effrayant de rendre compte pour toute l'Église, à moins qu'il n'ait perdu toute crainte des jugements de Dieu, qu'il ne veuille faire un abus indigne de la puissance ecclésiastique en la transformant en un pouvoir tout séculier. Pensez à la responsabilité des membres du clergé de l'Église de Vatican II qui ont détruit des millions d'âmes. Combien d'âmes se damnent à cause de Bergoglio, mais c'est ahurissant. Combien d'âmes ont perdu la foi complètement écœurées par l'attitude de Bergoglio. Combien d'âmes de gens qui seraient peut-être sortis des péchés contre nature, qui restent jusqu'au cou à cause du fait que Bergoglio a littéralement donné sa bénédiction pour tous les sodomites, en disant: qui suis-je pour juger quelqu'un qui est un sodomite? Donc, à quelque degré que vous puissiez vous humilier, jamais vous ne descendrez aussi bas que votre Sauveur et votre Dieu. Donc, celui qui a réussi à soumettre toutes les choses mondaines à sa raison et à se dévouer à la poursuite de la vraie beauté et honneur ne succombera jamais à l'envie des gens du monde, ne sera plus tenté par ses avantages. Si on fait ce que le bon Dieu nous demande de faire, à ce moment-là, on a les grâces d'État. Faut bien comprendre cela. Nous sommes à la page 41 du Polycopier. Voyons maintenant les derniers versets du chapitre 20 de Saint Matthieu, versets 29 à 34, la conclusion du chapitre 20. Lorsqu'il sortait de Jéricho, une grande foule le suivait. Et voici que deux aveugles, assis au bord du chemin, apprirent que Jésus passait. Et ils crièrent en disant: « Seigneur, fils de David, ayez pitié de nous. » Et la foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort en disant: « Seigneur, fils de David, ayez pitié de nous. » Jésus s'arrêta, il les appela et leur dit: « Que voulez-vous que je fasse ?» Et lui dirent: « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Ayant pitié d'eux, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Passage magnifique encore qui exalte la miséricorde infinie du bon Dieu pour les pécheurs. Que ces aveugles représentent les aveugles spirituels, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir les beautés de la création, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir notre Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié pour eux. Donc Saint Jérôme dit, il les toucha, notre Seigneur les toucha, ces deux aveugles, comme hommes, avec la main, mais il les guérit comme Dieu. Le Créateur leur donne donc ce que la nature leur avait refusé, ou du moins la miséricorde leur rend ce que la maladie leur avait offert. Ils offrirent à Jésus-Christ un présent qui lui fut bien agréable, car l'auteur sacré nous apprend qu'ils le suivirent. C'est cette phrase, donc, au verset 34, après avoir retrouvé la vue, aussitôt, ils le suivirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux aveugles devinrent des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas des apôtres, mais des disciples. Ceux qui habitent Jéricho, c'est dans la ville de Jéricho que cela se passe, ne peuvent sortir de la sagesse du monde avant d'avoir vu non seulement Jésus, mais encore ses disciples sortir de Jéricho. Or, une foule nombreuse, à la vue de cette guérison miraculeuse, les suivit, pleine de mépris pour le monde et pour les choses du monde, afin de monter sous la conduite de Jésus-Christ jusqu'à la Jérusalem céleste. En suivant notre Seigneur Jésus-Christ, on s'élève. Mais n'oublions pas qu'avant de passer au ciel, il y a un point de passage obligatoire, c'est la croix, c'est le calvaire. On monte d'abord au calvaire, et à partir du calvaire, on peut sauter dans la gloire du ciel. Alors, certains pères pensent que les deux aveugles représentent les deux peuples de Juda et d'Israël. Peuple qui était aveugle avant l'avènement du Christ, parce qu'il ne voyait pas la parole de vérité qui était renfermée dans la loi des prophètes, et parce que étant assis le long du chemin de la loi des prophètes, et n'ayant que l'intelligence charnelle de la lettre, ils élevaient la voix seulement vers celui qui est né de la race de David selon la chair. D'autres pères disent que ces deux aveugles sont la figure de ceux qui, dans les deux peuples, de Juda et d'Israël, s'attachent par la foi à l'économie de la vie humaine de Jésus-Christ par laquelle il est notre voie et qui désire être éclairé, c'est-à-dire comprendre quelque chose de l'éternité du Verbe. C'est-à-dire que ces deux aveugles représentent aussi la double nature dans le Christ, la nature humaine et la nature divine. Il faut voir en notre Seigneur et l'homme et Dieu. Or, il a fallu crier à ces aveugles assez haut pour dominer le bruit de la foule qui couvrait leur voix. C'est-à-dire qu'il a fallu s'appliquer avec persévérance à la prière, au Saint-Désir, pour arriver à vaincre par la force de l'intention, l'habitude des désirs charnels, qui, comme une foule tumultueuse, empêche l'âme de voir la lumière de l'éternelle vérité, ou bien la foule elle-même des hommes charnels qui veulent nous rendre impossibles les exercices spirituels de la prière et de la vertu. Donc voilà ces deux aveugles qui crient, ils entendent du bruit, il y a du monde qui arrive, alors ils demandent « qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» On leur dit « c'est Jésus de Nazareth qui arrive ». Ils ont entendu parler de Jésus, c'est le Messie. Et immédiatement, ils se mettent à crier « Seigneur, fils de David, ayez pitié de nous !» Et la foule les reprenait pour les faire taire. Ça représente justement, nous disent les pères, les gens mondains qui, imprégnés de l'esprit du monde, l'esprit de la liberté, d'égalité et de la fraternité, refusent la grâce du bon Dieu et donc empêchent les âmes de monter vers le bon Dieu. C'est ça le drame de l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II empêche les âmes de monter vers le ciel en maintenant les âmes dans le péché. Vous voyez, quand par exemple l'Église de Vatican II, devant un cas malheureux de mariage difficile, où les époux sont tentés de se séparer ou de se remarier devant l'état civil, que l'Église de Vatican II leur propose tout de suite une annulation de mariage qui est impossible, parce que le mariage chrétien consommé et ratifié entre deux chrétiens ne peut pas être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Eh bien, dans ce cas-là, si l'Église de Vatican II pousse ces gens à demander une soi-disant annulation de mariage, elle pousse les gens à rester dans le concubinage et à se mettre dans le concubinage. Il y a des tas de cas comme ça. Où l'Église moderne, sans aucune honte, pousse les gens à rester dans le concubinage. J'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps. De jeunes qui voulaient se marier, ils vivaient ensemble, ils voulaient régulariser leur situation. Le prêtre de l'église de Vatican II leur a dit, mais restez comme ça, vous n'êtes plus obligés de vous marier. J'ai connu des cas de païens qui venaient demander le baptême à l'église de Vatican II, pensant que c'était l'église catholique. Et le prêtre de l'église de Vatican II qui leur dit, mais vous n'avez pas besoin d'être baptisés. Tous les hommes vont au ciel sans baptême, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur nous, est mort pour nous. Donc l'Église de Vatican II pousse les gens à rester dans le vice, à rester dans le péché. Donc c'est cette foule qui fait du bruit et qui empêche les aveugles de contacter notre Seigneur Jésus-Christ représente les âmes qui les âmes malheureuses qui font taire la voix de la bonne conscience. Ça représente les mauvais chrétiens. et ceux qui vivent dans la tiédeur, qui font de l'opposition aux beaux chrétiens ou aux gens qui veulent se convertir, qui veulent accomplir les préceptes divins. Mais que ceux-ci ne cessent pas de crier sans se lasser, car tout chrétien, disent les pères, qui commence à pratiquer la vertu, à mépriser le monde, est sûr de trouver au début de sa conversion des censeurs de sa conduite dans les chrétiens dont la charité se refroidit. Mais s'il persévère, il se verra bientôt applaudi et appuyé par ceux-là même qui voulaient d'abord lui créer des obstacles. Donc les gens qui pensent à se convertir, qui pensent à se préparer une bonne confession générale pour la fête de Pâques, n'aient pas peur justement, ne se préoccupent pas du qu'en dira-t-on. Ne se préoccupe pas des gens qui vont les pousser à ne pas se convertir. Je suis heureux de voir parfois des gens qui font des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir se confesser. J'ai encore reçu dernièrement un coup de téléphone de gens qui habitent parfois assez loin. Monsieur l'abbé, je voudrais me confesser. Je ne me suis pas confessé depuis 10 ans. Qu'est-ce que je dois faire? En général, j'envoie un bon examen de conscience par Internet sur leur adresse mail pour qu'ils puissent se préparer. Je les aide à se préparer. Et ils font parfois des kilomètres et des kilomètres pour venir voir le prêtre et venir se confesser avec humilité. Nous aussi, nous qui sommes assis le long du chemin des Écritures et qui comprenons sous quel rapport nous sommes aveugles, si nous prions par amour de la vérité, Jésus touchera les yeux de notre âme et les ténèbres de l'ignorance se retireront de notre esprit, pour nous laisser voir et suivre celui qui nous a rendus à la lumière, que pour nous permettre de marcher à sa suite. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, est plein de miséricorde pour ceux qui le cherchent. On le voit très bien avec les deux aveugles. Dès que notre Seigneur Jésus-Christ se rend compte que ces jeunes, que ces deux aveugles le cherchent, que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que nos yeux soient ouverts. Et tout de suite, notre Seigneur Jésus-Christ fait le miracle. Mais n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait le miracle que parce qu'il a vu déjà la foi. Seigneur, que nos yeux soient ouverts, ça veut dire que ces aveugles reconnaissent que cet homme qui est devant eux est le Messie et qu'il a le pouvoir de faire un miracle et de rendre la vue à ces aveugles de naissance. Dans la ville de Jéricho, le mot Jéricho représente la lune. La lune change au cours du mois. On va avoir une pleine lune, puis ensuite la lune va décroître, et puis ensuite recroître. Et donc ça représente l'infirmité de nos changements, de notre mortalité. Et c'est pour ça que les aveugles sont à Jéricho, me disent les pères. Parce que la lune change tout le temps, et donc Jéricho représente ceux qui n'ont pas de suite dans les idées. Et quand le Créateur se rapproche de Jéricho, l'aveugle retrouve la lumière. Car quand la divinité prend sur elle l'infirmité de notre chair, la race humaine regagne la lumière qu'elle avait perdue. Donc dès que le malade, c'est-à-dire le pécheur, touche notre Seigneur Jésus-Christ, même simplement s'adresse à lui, en disant, Seigneur, que voulez-vous, Seigneur, fils de David, ayez pitié de nous. Il faut le répéter souvent, pour que notre Seigneur Jésus-Christ entende, malgré les bruits du monde et les bruits des mondains qui cherchent à nous empêcher de contacter notre Seigneur Jésus-Christ, alors notre Seigneur Jésus-Christ va s'approcher de nous. La page 42 sur la dernière page du fichier des chapitres 16 à 20 de Saint Matthieu. Jéricho, disent les pères, représente le monde dans lequel le Christ est descendu. Ceux qui sont à Jéricho ne savent pas comment échapper à la mondanité et doivent attendre l'arrivée de notre Seigneur pour pouvoir utiliser le chemin qui mène à la Jérusalem céleste. Donc Jéricho va se transformer en Jérusalem. Jéricho, c'est l'incertitude. Jérusalem, au contraire, c'est le symbole de la stabilité, du bonheur, de la Jérusalem céleste qui est l'Évangile, qui est le paradis. Alors, je vous donne ici l'interprétation des différents pères, sur la signification de ces deux aveugles. Donc, allégoriquement, Origène et Saint Ambroise disent que les deux aveugles étaient Judas et Israël, qui étaient aveugles avant l'arrivée du Christ, parce qu'ils ne voyaient pas le Verbe qui était contenu dans la loi et les prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ se cache dans l'Ancien Testament. Rabbin Mor et Saint Augustin disent que ces aveugles étaient les Juifs et les gentils, car tous les deux étaient ignorants du chemin du salut. Mais Saint Jean Chrysostome ne voit en eux que les gentils, qui descendaient en partie de Sem et en partie de Japhet. Bon, plusieurs interprétations. D'autres interprétations, je vous donne à partir des pères. Les deux aveugles représentent le double aveuglement des affections et de l'intelligence. Saint Grégoire le Grand, lui, mystiquement, comprend par la multitude des gens qui sont autour, la foule, La foule des désirs charnels qui agissait avant que Jésus ne soit venu dans notre cœur et qui détruisait notre méditation à la voix de notre prière. Donc ça représente les trois concupiscences de la chair, des yeux, de l'orgueil, qui nous empêchent de voir le bon Dieu. C'est pour ça que nous sommes aveugles spirituellement parlant. Combien de gens sont aveugles spirituellement parlant? Ils ont bien deux yeux qui marchent, qui fonctionnent normalement sur le plan physique, mais ils sont incapables de voir les choses spirituelles, de comprendre la grandeur des choses spirituelles, parce que justement, ils s'arrêtent avec les yeux de la chair à ne voir que les choses matérielles et oublient les choses spirituelles, oublient que l'âme est bien plus importante que le corps. Donc tout chrétien qui a commencé à vivre correctement, à mépriser le monde au commencement de sa vie de nouvelle, doit endurer les sarcasmes de ces chrétiens froids, superficiels, tièdes. Mais s'ils persévèrent, ceux qui le gênaient au début vont l'accepter. La pire des choses, c'est ce qu'on appelle la tiédeur, la sédie, la paresse spirituelle. Malheureux, malheur aux tièdes. Saint Grégoire le Grand dit qu'il faut passer à travers la nature humaine pour s'arrêter dans la nature divine. Donc le Seigneur qui passait entendit le cri de l'aveugle, mais quand il lui rendit la vue, il se tenait debout. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, ressuscite cette personne, et donc quand quelqu'un ressuscite, il se lève, il était couché, dans les affres de la mort, il ressuscite. Analogiquement, donc un texte de saint Augustin qui dit « La foi en l'incarnation temporelle nous prépare à la compréhension des choses éternelles. » Quand les choses temporelles passent, alors que les choses éternelles se tiennent debout, immobiles. Ça, c'est tout le travail de la révolution autour de nous. Nous faire croire que les biens temporels ne sont que les uniques biens de l'âme et du corps. Et qui oublie complètement que l'homme a une âme. L'homme est un être spirituel et a été créé pour Dieu. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Donc laissons l'homme, termine par cette magnifique phrase des pères en bas de la page 42, laissons l'homme qui est aveuglé par le péché et la concupiscence dire au Christ, accordez-moi, ô Seigneur, de voir la bassesse du péché, la laideur de la concupiscence, l'inutilité du plaisir, la cruauté du feu de l'enfer, la beauté de la vertu, la béatitude du paradis, l'éternité de la gloire, afin que je méprise toute concupiscence, que je désire la pratique des vertus. Vous pouvez très bien utiliser cette phrase magnifique des pères. En action de grâce, après votre communion, Seigneur, ouvrez les yeux de mon âme pour que je puisse comprendre où sont les choses importantes, pour que je puisse comprendre que malgré les croix du monde moderne, que le monde moderne accumule sur mes épaules, je suis un être d'éternité, vous me donnez toutes les grâces pour que je sauve mon âme. Voilà, Dieu aidant, nous avons terminé donc ce chapitre 20 de saint Matthieu, la prochaine fois. Si Dieu veut, donc nous commencerons un autre fichier, donc le fichier des chapitres de saint Matthieu 21 à 25. Nous arriverons petit à petit, lentement, à la fin de cet évangile selon saint Matthieu. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Jérôme et Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.